Affinité élective, une émission de Francesca Isidori. Engagée dans la résistance grecque à 17 ans, condamnée à mort à 21, exilée en France depuis 1945, son œuvre philosophique, ou plutôt sa pensée métaphilosophique, échappe à toutes les écoles, à tous les systèmes, à toutes les modes. Il fait figure, comme l'écrivait Jean-Michel Palmier en présentant son livre « Problème de l'enjeu » en 1980, il fait figure de sphinx de pierre au carrefour où il s'est insolemment situé. Devant lui, comme des chemins convergents, se rencontrent des problématiques, celles de Marx, de Heidegger, de Freud et de Nietzsche, d'Héraclite et de Rimbaud. Il est là, énigmatique, déployant ses trilogies philosophiques, ses jeux, ses questions, ses errances. Sage et fou, adulte et enfant, amical et corrosif, aussi brûlant que la neige, à peine entr'ouvert un de ses livres, celui-ci nous emporte dans un tourbillon de questions, nous réduit à l'état de feuilles mortes. On voudrait s'arrêter, fuir, l'éviter, mais on le retrouve sans cesse, que l'on s'interroge sur le marxisme, la poésie, la modernité, la mort ou l'éternité. Si son diagnostic est sans appel quant au désarroi des hommes modernes jetés dans l'espace-temps où souffle un vent froid voué à la morsure du négatif, et si notre époque marque une certaine fin, une clôture, comme il l'est dit dans Métamorphose, elle nous appelle également à une nouvelle ouverture. Tentative de dresser une pensée méditante en s'engageant dans des chemins peu empruntés, en posant des questions que peu osent encore affronter, cela donne non pas un système, mais une systématique ouverte, multidimensionnelle, combinatoire, attentive aux métamorphoses et à ce qui advient, comme le témoigne son dernier livre, publié aux éditions Encre Marine et intitulé précisément « Ce qui advient, fragment d'une approche ». Les affinités électives de Kostas Axelos. Bonjour Kostas Axelos.
Bonjour Francesca.
On écoutait Mozart, Symphonie des jouets, interprétée par l'Académie Saint-Martin on the Fields et dirigée par Sir Neville Mariner. Vous m'avez suggéré, vous avez souhaité écouter cette musique, la Symphonie des jouets. Je suppose que c'est à cause des jouets.
C'est à cause de jouer, à cause d'un autre Mozart, si je puis dire. Mozart est le plus grand musicien de la mort assumée, transfigurée, vécue. Là, dans ce petit morceau-là, il s'est laissé aller à son côté enfantin, qui existait fortement chez lui, et il a fait une petite symphonie de jouer.
Et Héraclite, dont il sera question au cours de cet entretien, écrivait « Le temps du monde est un enfant qui joue au tric-trac, ce royaume est celui d'un enfant ».
En effet, toute la pensée, et pas seulement occidentale, a signalé l'importance du jeu. Ici, « jeu » ne signifie pas le jeu des enfants, des adultes, le jeu de cartes, le football, mais signifie que le monde lui-même ni n'a de sens, ni n'en a pas, mais se déploie comme un jeu dont toutes les règles sont intérieures. Héraclite a formulé cette idée. Il a dit « le temps du monde est un enfant, il joue ». Cette idée fut reprise après dans la Bible, où il est dit que pendant que la sagesse divine œuvrait, elle jouait en même temps. Cette idée a été reprise dans les temps modernes par Hegel, par Novalis, par Nietzsche, par Heidegger. Ces derniers 3-4 décennies, il y a eu une floraison des études sur le jeu, mais naturellement ce sont des jeux anthropologiques, économiques, psychologiques, la théorie des jeux. Le jeu auquel mes prédécesseurs et moi-même font appel est un jeu que je n'appellerai pas métaphysique, mais un jeu qui n'est autre que le monde lui-même qui contient tous les jeux, qui n'est pas, qui n'existe pas, mais qui se déploie comme jeu.
Costas Axelos, on reviendra tout à l'heure à cette question qui est centrale dans votre pensée, dans votre méditation autour du jeu du monde. Mais pour l'instant, j'aimerais que vous regardiez cette photo en noir et blanc que vous avez sous les yeux, où l'on voit deux garçons.
Je vois en effet cette photo où il y a deux garçons, où nous avons un peu de 25 ans à peu près. C'était un ami, un très bon camarade à moi, qui finissait des études de mathématiques, c'est devenu après un grand professeur de mathématiques, et moi-même. Lui, ce qui m'intéressait chez lui, c'était qu'il voulait unir la mathématique, la critique littéraire et la poésie. Son modèle était Valéry. Et moi-même, je m'intéressais uniquement à la philosophie et à la poésie. Cette jonction, non pas de la philosophie au sens scolaire et au sens où elle s'est développée de Platon jusqu'à Hegel, mais de la pensée méditante et de la poésie, est une question cruciale. On croit qu'il y a des grands poètes d'un côté et des grands penseurs de l'autre. Mais Platon est aussi poétique que Baudelaire et Rimbaud est aussi pensant que Nietzsche. À un certain niveau, haut de la pensée et de l'expérience, pensée et poésie, tout en ne faisant pas un, sont extrêmement rapprochés.
Donc dans ces années, vous étiez à Paris depuis peu. Vous êtes arrivé à Paris en 45, on y reviendra. Et donc, vous étiez étudiant au moment où on a pris cette photo. Vous étiez encore étudiant à la Sorbonne.
Non, j'avais fini mes études, j'avais fini ma licence et j'étais au CNRS préparant mes thèses.
Alors, Costas Axelos, on fait un pas en arrière et on est à Athènes, où vous êtes né en 1924. Comment vous pourriez évoquer en quelques mots votre enfance ?
Je vois dans l'enfance ce qui m'opprimait, peut-être à l'époque naturellement je n'oserais pas dire ce mot, une atmosphère grande bourgeoise. Mon père était un médecin cultivé, libéral au sens de démocrate, mais tout plongé dans une atmosphère bourgeoise. C'est, je crois, cette oppression familiale, l'oppression non, nous laisser mon frère et moi assez libres, mais cette absence de liberté, de joie, de poésie, dirais-je, qui m'a poussé littéralement à l'âge de 17 ans et demi dans les bras du communisme, c'est-à-dire à l'époque, dans les jeunesses communistes. Une aversion de la bourgeoisie et un besoin, un souhait d'autre chose, de quelque chose de plus ouvert.
Et comment votre famille a-t-elle réagi devant cet engagement qui était le vôtre à 17
ans ? La famille a réagi mal, naturellement d'abord idéologiquement, mais surtout après, j'avais quitté la maison, j'étais clandestin, mais surtout parce que j'ai été arrêté plusieurs fois, tantôt j'étais libéré, tantôt je m'étais évadé, jusqu'au moment de la guerre civile où j'étais dans un camp de concentration condamné à mort, d'où je me suis évadé à la nage.
Alors, vous étiez inscrit dans un lycée grec et parallèlement, vous suiviez des cours à l'Institut français d'Athènes et aussi à l'école allemande. Est-ce que c'était très courant d'avoir cette triple formation
non,
ou est-ce que c'était
pas
réservé à une classe comme la vôtre, celle à laquelle vous apparteniez?
C'était pas tellement réservé à une classe, parce qu'il y avait disons, d'autres enfants de classes diverses et variées qui faisaient cette carrière, surtout aux capacités. Comme j'avais une capacité pour les langues, l'histoire, et une incapacité pour la physique, la mathématique, ça m'était assez facile de faire littérature, histoire, langue, dans les trois langues, dans le lycée grec, où englobait tout, le lycée français, l'Institut français et l'école allemande, et finir avec trois diplômes.
Alors, vous avez vécu clandestinement pendant la période de l'occupation allemande et italienne, lorsque vous étiez engagé dans la résistance, à laquelle vous avez pris une part très active, et dès 1941, dès la création du Front National de Libération, qui s'appelle EAM, et de l'armée de résistance, qui était appelée ELAS. Donc, vous viviez clandestinement. Vous vous êtes engagé donc dans la guerre civile, dans la première phase, je crois, 44-45, c'est ça? Et en quoi consistait votre action?
Mon action était une action d'organisation, organisée surtout les étudiants et la jeunesse estudiantine, d'après les écoles, les spécialités, dans une organisation qui comportait tout à fait à l'intérieur le Parti communiste et à l'extérieur des organisations qui avaient des noms démocratiques et nationaux ronflants pour ne pas faire peur aux gens, mais qu'il fallait tous organiser. Deuxièmement, c'était une activité de journaliste, parce que j'écrivais dans les journaux, deux journaux, un journal d'étudiants et un journal d'une grande banlieue. J'écrivais dans la presse clandestine de jeunesse communiste et du parti. Et troisièmement, une activité théoricienne, car bien que jeune, j'étais assez cultivé, au marxisme et au léninisme aussi, et je donnais souvent des leçons théoriques.
Alors, vous aviez donc adhéré au Parti communiste clandestin, vous en avez été exclu, et en même temps, vous avez été condamné à mort à cause de votre engagement communiste, donc vous étiez finalement condamné de tous les côtés.
À cause de mon activité résistante et de la guerre civile, j'ai été condamné à mort, mais j'ai été condamné à mort par contumace quand j'étais déjà en France, parce qu'il y avait une telle pagaille que jusqu'à ce qu'on trouve qu'il fallait condamner à mort, il fallait du temps. Du Parti communiste, c'est déjà fin 45, depuis 46, où, si l'on peut dire, j'étais à la fois exclu et à la fois je me suis éloigné moi-même, parce que l'aversion que j'avais eue pour la bourgeoisie, j'avais fini pour l'avoir, pour le mouvement communiste, qui était un mouvement bureaucratique terrorisant.
Costas Axelos, alors, dans quelles conditions avez-vous réussi à embarquer à bord du bateau qui s'appelait le Mataroa?
À l'époque...
Avec d'ailleurs d'autres intellectuels, jeunes intellectuels, comme Castoriadis ou le compositeur Xenakis.
En fin 45, la Grèce était libérée, des Allemands et des Italiens. Elle avait vécu la première phase de la guerre civile où la gauche avait perdu nettement la bataille. Il y avait un doux régime de droite virant vers l'extrême droite qui était au gouvernement. Et le directeur de l'Institut français, Merlier, qui était un homme très, très ouvert, a voulu sauver à la fois la vie et assurer un avenir scientifique à certaines personnes qu'il considérait comme à la fois en danger et douées. Ainsi avons-nous embarqué sur le même bateau, qui est devenu le fameux Mataroa, des gens comme Castoriadis, le philosophe, Papayanou, le politologue, l'écrivaine grecque Mimika Kranaki et d'autres, et également des peintres et des sculpteurs.
Et donc la destination, c'était la France?
La destination, c'était Paris. À Paris, le voyage s'arrêtait. Mais la plupart pour nous, c'était un voyage sans retour.
Art de la fugue par le Concerto Italiano dirigé par Rinaldo Alessandrini, Costas Axelos. Il est question de Bach, de l'art de la fugue dans ce qui advient, dont on va parler tout à l'heure.
Bach, si on me demandait quel est le musicien, naturellement dans l'ère musicale que nous connaissons, qui nous est proche, je dirais Bach. Il a tout assumé et tout transcendé. Il a dépassé à la fois l'homme, bien que sa musique ait un teint religieux, il a dépassé tant l'homme que Dieu, et vraiment, c'est une musique du monde, monde non pas considéré comme la totalité de ce qui est, mais comme ouverture qui englobe tout dans le temps, comme passé, présent, avenir.
Alors, on revient à cette année 1945 où vous installez à Paris, vous arrivez à Paris. Quel souvenir gardez-vous justement de votre arrivée à Paris, de la découverte de Paris?
à premier abord, ce qui nous avait frappé à Paris, sortant de 4 ans d'occupation et avant de tous les préjugés, c'était une impression de liberté, de pouvoir tout dire, de pouvoir circuler comme on veut, d'aller à l'hôtel avec une fille. Ça nous a paru absolument merveilleux. Et je dois dire, en grande partie, cette impression sur ce plan et sur ces plans est
restée intacte.
Est restée intacte. Sur le plan intellectuel, quand j'ai commencé mes études, j'ai été très déçu par, je ne dirais même pas mes maîtres, je dirais mes professeurs. Il y avait des personnes douées, intelligentes, savantes, mais il n'y avait pas de grands penseurs. Merleau-Ponty, qui peut-être n'est pas un grand penseur, mais un authentique penseur, n'était pas à l'époque à la Sorbonne. Alors j'ai fait une licence très vite et on m'a fait entrer dans le CNRS pour préparer mes thèses où j'ai eu un rapport normal avec 2-3 professeurs, mais sans admiration pour eux.
Alors, vous aviez à peine eu le temps d'entamer en Grèce, à Athènes, avant votre départ, des études de droit, la faculté de droit, puisque la faculté de philosophie ne dispensait pas un enseignement qui pouvait être satisfaisant à vos yeux. Et donc, finalement, c'est à Paris, à la Sorbonne, que vous avez entrepris véritablement des études de philosophie, mais avec cette réserve que vous venez de formuler, c'est-à-dire non pas des maîtres, des enseignants, et peut-être alors il faut chercher ailleurs les rencontres qui ont marqué votre itinéraire intellectuel, ailleurs que dans l'académie.
Ce qui est justement la déception ou le non-enthousiasme pour les maîtres de la Sorbonne m'a remis sur les rails sur lesquels je me mouvais dès l'âge de 16-17 ans, et après, sur des voies que j'ai suivies ensuite, que je suis encore, si l'on peut dire, qui sont des grands penseurs qui n'étaient pas, à l'époque, souvent à leur époque, des professeurs de philosophie. Héraclite est quelqu'un qui m'a fasciné très fort. À 17 ans, dans un journal d'étudiants, j'ai écrit un article sur lui. Après, peu à peu, j'ai déchiffré Hegel. J'avais été très en contact, naturellement, avec la pensée de Marx et le marxisme à cause même du communisme, mais Marx m'intéressait au-delà du communisme, comme un Marx au-delà du marxisme. Nietzsche comme penseur du nihilisme qui refuse à la fois la bourgeoisie et le socialisme. Enfin, Heidegger qui pose une question inédite, la question de l'être, et que j'ai très bien connue.
Mais alors, justement, c'est cette constellation sous laquelle vous placez progressivement, cette constellation qui réunit ces 5 penseurs, Héraclite, Hegel, Marx, Nietzsche, Heidegger. Au départ, vous questionnez le penseur originaire par excellence, qui est Héraclite, le pré-philosophe. Vous questionnez ce que vous appelez son jeu astral et souterrain. Et c'est lui qui a l'intuition fondamentale des contraires que vous continuez de travailler et de questionner jusque dans votre dernier livre. Donc ça, c'était la rencontre originelle.
Oui, en fait, je réside dans le fait qu'Héraclite est un penseur absolument englobant, un des premiers penseurs qui parle du monde, c'est-à-dire du tout illimité, qui parle du feu qui anime toute chose, de l'unité des contraires combinatoires, antagonistes et complémentaires. de la lutte de toutes choses pour le pouvoir et qui précède toute systématisation philosophique. On parle justement des présocratiques comme Héraclite parce que la systématisation de la philosophie préparée par Socrate s'accomplit avec Platon.
Et ensuite, Marx, surtout le Marx penseur de la technique, c'est ça qui vous a...
Surtout le Marx penseur, oui, pas le Marx de telle ou telle analyse économique ou de telle ou telle analyse. Ce que j'ai essayé de faire et ce que mon jury de thèse ne comprenait pas, que je me plaçais à un point de vue qui n'était ni marxiste, ni paramarxiste, ni anti-marxiste, mais voir en Marx un penseur du monde, et comme chaque penseur du monde voit dans une force la force élémentaire, motrice, Marx a vu dans la technique, plus que dans l'économie, le moteur du devenir.
Oui, vous parliez de votre jury de thèse. Vous avez passé deux thèses de doctorat en Sorbonne qui ont été publiées aux éditions de Minuit. Marx, penseur de la technique, qui a été publié en 61, et Héraclite et la philosophie en 62. Alors, on reviendra aux autres penseurs qui vous ont marqué, à Hegel, Nietzsche et Heidegger. Mais avant, j'aimerais, et pour revenir à cette question que je posais, donc non pas des maîtres rencontrés dans les lieux institutionnels, mais d'autres rencontres intellectuelles. Je pense à la rencontre, par exemple, avec Henri Lefebvre, le philosophe, le sociologue marxiste, qui le premier, d'ailleurs, en France, si je ne me trompe pas, à travailler sur les manuscrits de jeunesse de Marx.
Oui, j'ai rencontré Lefebvre assez tôt et nous sommes devenus amis parce que lui, restant peut-être quelque part encore proche du Parti communiste, travaillait dans une dimension où il cherchait dans le jeune Marx les mouvements les plus ouvrants de ce qui est devenu après le marxisme. Presque simultanément, j'ai connu Jean Beaufré, avec qui nous avons beaucoup parlé de Heidegger, lui-même étant l'introducteur de Heidegger en France, et qui m'a fait même rencontrer Heidegger.
Oui, alors donc Jean Beaufré, qui lui avait lu Heidegger pendant la guerre, oui. Alors qu'il était résistant,
oui.
Et en 1946, il va à la rencontre de Heidegger en Allemagne, et ce sera le début d'un dialogue qui va durer 30 ans, et Dialogue avec Heidegger sera le titre des 4 volumes que Jean Beaufré va publier dans votre collection, Arguments, je crois, aux éditions de Minuit, en 1973. Alors, Jean Beaufré qui vous fait, d'une certaine manière, découvrir, ou en tout cas avec qui vous pouvez parler de Heidegger, mais le tout premier à vous parler de Heidegger, c'était un ami poète et c'était en Grèce. Donc, c'était avant votre arrivée en France.
Il y a certaines paroles qui semblent se perdre dans l'espace-temps. Et là où elles semblent perdues, elles reviennent à leur moment. Quand j'étais tout jeune, résistant encore, j'ai rencontré un jeune peintre, lui 35 ans, peintre qui m'a dit « qu'est-ce que tu fais ou qu'est-ce que tu veux faire de la philosophie ?» Et il m'a dit « mais il n'y a que Heidegger qui dit que la philosophie est l'ouverture à l'égard du monde ». J'avais sur l'instant presque oublié cette parole, engagé que j'étais dans l'action et la théorie communiste, et je m'en suis en quelque sorte, retour du refoulé, dirait Freud peut-être, ressouvenu de cette parole 35 ans après, quand de moi-même je me suis mis à lire Heidegger, après à discuter avec Beaufré, beaucoup de Heidegger, et enfin discuter avec Heidegger lui-même.
Heidegger, donc, que vous avez rencontré en 1955 à Cerisy.
À Paris, avant Cerisy.
Oui. Et quel est le souvenir que vous gardez de cette première rencontre?
Le souvenir que je garde de Heidegger, c'est d'une part d'un grand penseur. Il disait des grandes choses dans la conversation, quelquefois dans la conversation systématisée, mais quelquefois aussi comme ça, sans liaison avec un thème. Et en même temps, c'était un petit bourgeois. J'étais choqué par son côté, petit bourgeois, à l'égard de sa femme, de sa nation, de ce qui est, tandis qu'en théorie, s'il mettait en question tout ce qui est, tous les temps, comme il dit, tout ce qui est tous les temps à l'égard de l'être, dans sa vie, il respectait absolument tous les temps, ou alors faisait des choses clandestinement, comme tout le monde, sans dire ce qu'il faisait.
Kostas Axelos, quel regard portez-vous sur l'ambivalence, le mélange de fascination et de méfiance que l'on retrouve souvent chez bon nombre d'intellectuels français à l'égard de Heidegger, que l'on pense à Sartre, à Lévinas, à Foucault, Derrida, Lacan, Althusser, qui ont tous été à la fois très attirés et aussi qui ont pris des distances. Voilà, c'est peut-être d'ailleurs une situation particulière à la France. Le Heidegger français, on ne pourrait pas dire l'équivalent pour un Heidegger italien ou un Heidegger anglais.
D'une part, en défendant Heidegger, je disais qu'il était attaqué de toutes parts, même de ceux qui travaillaient beaucoup sur lui, parce qu'il se sentait dépassé. Il se mouvait sur un terrain, sur un niveau auquel il n'existait pas. En revanche, il pouvait l'attaquer, s'approcher de lui, l'attaquer sur le plan politique. On sait que Heidegger a été un membre du parti nazi allemand actif en 1933-1934, qu'il a cessé d'exercer les fonctions de recteur, qu'il a cessé après toute référence au nazisme, mais si on lit ses œuvres attentivement, on trouve du début jusqu'à la fin comme des touches national-socialiste dans presque toutes ses œuvres, ce qui ne signifie absolument pas que Heidegger soit nazi. Heidegger est un philosophe qui n'est pas nazi, qui est même le contraire du nazisme, mais presque malgré lui, dû peut-être à son enfance, à sa jeunesse, à son entourage, il y a ces touches qui apparaissent comme des touches qu'un peintre ne voudrait pas faire voir apparaissaient sur la toile.
Vous dites, le questionnement de Heidegger demande à être questionné productivement à partir de lui, mais pas seulement de lui, et un dialogue avec d'autres figures de la constellation de la pensée et de la poésie. Une autre ouverture pourrait se manifester et se laisser élaborer. Un autre chemin pourrait s'ouvrir. C'est dans une conférence de 2002 intitulée « Heidegger et les destins de la philosophie ».
En effet, je trouve là une attitude très stérile de certains de mes collègues, souvent plus jeunes, qui sont, comme on dit, heideggeriens, qui répètent toutes les thèses de Heidegger, ou qui paraphrasent à l'infini, qui paraphrasent toutes phrases de Heidegger. Je ne parle pas des autres qui l'ignorent tout à fait. Heidegger n'est pas...
Ou même de ceux qui le combattent.
Ou même ceux qui le combattent souvent à côté. Heidegger, il a dit lui-même, à Cerisy-Lassalle, il a répété deux fois, il a dit il n'y a pas de philosophie heideggerienne. Il n'y a pas de philosophie, il n'y a pas de système clos ou même système ouvert chez Heidegger. On ne peut pas le prendre ni comme un bloc, ni comme morceau. On peut partir en partant de l'intuition centrale de cette pensée ou même souvent de son style de questionnement, la questionner elle-même, parce qu'elle-même obéit à des critères qu'elle ignore, la questionner elle-même et faire un pas en avant. On ne va pas rester pendant 100 ans à Heideggerien.
Bach encore, le clavier bien tempéré, interprété par Vladimir Ashkenazy. Kostas Axelos, en 1956, vous fondez avec Edgar Morin, Jean Duvignon, Barthes et Colette Audry la revue Argument, revue dont vous serez rédacteur en chef de 58 jusqu'à sa disparition en 62. Argument, c'est présenté non comme une revue, formule commerciale ou littéraire, mais comme un bulletin, formule militante et chercheuse. C'est Edgar Morin qui le déclare en 70. Et parallèlement, presque parallèlement, vous fondez et dirigez à partir de 1960 la collection Argument aux éditions de Minuit, où vous allez publier entre autres Blanchot, Bataille, Marcuse, Jacobson. Alors, la revue et la collection ont joué un rôle capital dans le domaine des idées en France. Elles ont été le lieu d'une révision généralisée du marxisme stalinien, du mode de pensée marxiste de la fin des années 50. Comment vous repensez à ces années Argument ?
Argument était une période très, très positive sur la recherche, très positif sur les liens affectifs qui nous unissaient. Il y avait une réelle camaraderie entre nous. Et ce qui nous reliait surtout, c'était que nous étions des personnes déplacées. C'est déplacé, non pas que quelqu'un nous ait déplacés, mais nous n'étions ni chrétiens de droite ou de gauche, nous n'étions ni staliniens, ni socialiste, ni surréaliste, c'était par une multiple négation des idéologies ou des attitudes du monde existant et en cherchant quelque chose d'autre, au-delà de Marx, en invoquant aussi d'autres poètes, en mettant en question la vie elle-même. On a fait un numéro qui a été considéré comme révolutionnaire, qui a remué les eaux, qui s'appelait « L'amour problème ». Donc, je garde un très, très bon souvenir de la revue Argument, mais nous avons pensé qu'elle avait parcouru son cycle, qu'elle ne devait pas devenir une revue institutionnelle. Faisons numéro sur numéro et examinons problème après problème, mais mourir...
De sa belle mort.
La tête haute. Et là surgit l'idée de la collection que j'ai dirigée d'emblée. L'idée de la collection, c'était poursuivre le travail méta-marxiste en publiant des gens, des maudits du marxisme, comme Lukács, comme Korsch, mais aussi de nous ouvrir à de tout à fait autre chose, publiant un livre de Hegel, publiant un livre de Novalis, publiant des livres sur Nietzsche, sur Heidegger, c'est-à-dire le mouvement de pensée qui nous animait dans Argument, s'est trouvé plus systématisé dans les livres de la collection.
En 62, donc l'année où vous publiez Héraclite et la philosophie, 62, c'est l'année de la disparition donc de la revue Argument, et vous entamez cette première trilogie que vous intitulez « Le déploiement de l'errance ». Donc le premier volume, c'était Marx, penseur de la technique, Héraclite et la philosophie, et le troisième, Vers la pensée planétaire. Déploiement de l'errance, qui sera suivi par une deuxième trilogie, Le déploiement du jeu, et ensuite Le déploiement d'une enquête. Alors, j'aimerais qu'on s'arrête sur ces quelques mots, notions, concepts qui sont au centre de votre méditation et qui apparaissent à travers ces différentes trilogies. Le mot de déploiement, le mot de pensée planétaire, et puis il y a l'errance, et enfin le jeu du monde dont vous nous avez dit quelques mots tout à l'heure.
Ces mots clés, par exemple, déploiement, veut remplacer pratiquement le mot « être », hein, pour le dire très professoralement. Je ne pense pas que ce micro qui est devant moi est, mais il déploie ses fonctions. Il transmet des paroles, il peut être cassé, il peut disparaître, il peut avoir une vie multiple. Donc, les choses ne sont pas, mais se déploient. Et cela concerne en tout premier lieu le monde, qui n'est pas quelque chose qui est là, même en tant que passé, présent et avenir, mais quelque chose qui se déploie ouvertement. Cette ouverture et cette pensée de l'ouverture, je l'appelle, j'étais un des tout premiers, modestie mise à part, à parler du planétaire. Le planétaire est maintenant dans toutes les bouches, mais ceux qui l'emploient ne savent pas ce qu'ils disent. Ils pensent que planétaire, c'est le global, ce qui concerne Chicago en même temps que Singapour et je ne sais pas quoi, je ne sais pas quoi. Planétaire est un mot grec, ça vient du mot « planès ». Planès signifie errant.
Planès,
c'était les astres errants. Donc, par pensée planétaire ou monde planétaire, j'entends une pensée errante, un monde errant. Mais errant, non pas dans le sens de porter atteinte à la vérité, d'une errance globale, c'est-à-dire ne pas savoir où, pourquoi et comment on va, c'est-à-dire être ouvert à l'expérience et non pas une errance qui serait une erreur ou un simple vagabondage. Le jeu serait lié au mot monde et au monde planétaire parce que c'est le jeu du monde planétaire. Par jeu, j'entends toujours quelque chose qui a trait au monde. Nous ne parlons pas des jeux d'enfants ou des adultes empiriques, le jeu est le jeu du monde planétaire qui lui-même n'obéit à aucun sens, mais qui implique tous les sens, qui n'a lui-même aucune vérité. Pourquoi y a-t-il monde ? Pas de réponse. Qui n'a lui-même aucune vérité, mais qui implique toutes les vérités qui surgissent et qui disparaissent à leur tour dans le cours de l'errance.
Vous dites considérer le monde comme étant ni sensé ni absurde, mais se déployant comme un jeu qui contient et brise la combinatoire de tous les jeux. Alors, tout ceci donne D'une part, ce que certains ont pu appeler, enfin définir votre philosophie comme une philosophie de la disparition de la philosophie, ou ce que vous appelez, vous, la métaphilosophie, une pensée métaphilosophique.
Je l'ai appelée une ou deux fois, mais ce mot ne me plaît pas du tout maintenant.
Alors, on l'abandonne.
Oui, le mot méta, parce qu'il y a après le métal. Le méta, c'était avec comme le postmodernisme, quand j'ai entendu une personne dire... Ce n'est pas post-moderne, c'est post-post-moderne.
Oui, on n'en finit plus, alors.
Ça devient un jeu langagier, trivial.
Alors, tout cela ne donne pas un système, mais une systématique. Vous continuez quand même d'adopter
oui,
ce terme, systématique.
Absolument pas un système. La systématique ne vient pas se substituer au système. C'est un ensemble articulé, le monde qui englobe toutes ces... partie, mais cette systématique n'est pas fermée d'aucune manière et reste ouverte à sa propre contradiction. C'est-à-dire elle est systématique et en même temps elle n'est pas systématique, elle fait partie du jeu de l'errance.
Elle est aussi attentive aux métamorphoses?
Elle est surtout attentive aux métamorphoses. J'appelle métamorphose toutes les figures du devenir. Tout ce qui est, passe, revient, repasse, à ce qui change, à ce qui se meut, à ce qui ne reste pas sur une place ou n'occupe pas un seul instant du temps.
Et très attentive aussi à ce qui advient, qui est le titre de votre dernier livre.
Oui, le titre de mon dernier livre, qui est « Ce qui advient », j'ai cru... Les auteurs croient aussi des choses. J'ai cru faire un pas en avant en ne parlant plus du devenir où les choses deviennent, comme ça les unes après les autres ou tout ensemble, mais de l'advenir. L'advenir concerne aussi bien les choses qu'on dit petites que grandes. Quand deux personnes se rencontrent, n'importe quel plan, érotique, amical, politique, scientifique, quelque chose advient, quelque chose qui est plus qu'eux-mêmes et plus que l'addition de deux individualités. Aussi, dans l'histoire mondiale et l'advenir mondial, et non pas le devenir qui serait régi par les hommes ou qui serait dû à la chance pure.
Et le sous-titre « Fragment d'une approche », d'abord, est-ce que le choix de la forme « fragment », ce n'est pas la première fois que vous écrivez en adoptant cette forme « fragment », mais est-ce que cette forme était la plus apte justement à saisir ou à tenter de saisir ce qui advient, non pas ce qui devient ?
Justement, une pensée qui n'est pas systématique, qui ne saisit pas ce qui est d'une manière immobile ou qui ne le noie pas dans un devenir qui va je ne sais pas où, s'exprime fragmentairement, mais étant donné qu'il n'y a pas d'opposition tranchée entre fragment et système. Dans mon dernier livre, qui parle aussi de la ruse, une ruse est effectuée. Il se donne par fragments, mais la ruse consiste qu'il est en même temps un discours continu du début à la fin. Donc organisation, ou plutôt, je n'aime pas le mot organisation, tout est organisé, mais articulation et fragment sont deux choses qui vont ensemble, car dans tout fragment, il y a le tout, et dans le tout, il y a des fragments.
Vous écrivez dans « Ce qui advient », « Fragment d'une approche », tenter de s'accorder à l'incessante transmutation constitue une tâche qui sollicite aussi bien notre féconde inquiétude qu'une problématique et désinvolte sérénité. Alors, féconde inquiétude, problématique et désinvolte sérénité, on est dans les termes contradictoires d'Héraclite, dans les termes
c'est
conflictuels.
Celui qui essaye de penser est porté par une inquiétude, mais sa tâche n'est pas de s'installer dans cette inquiétude, j'irais jusqu'à dire la nervosité, être inquiet de tout. Il y a une inquiétude fondamentale, comment se déploie le monde, qu'advient-il, et cette non-inquiétude, dont l'inquiétude au sens de nervosité, d'agitation, se présente comme une problématique sérénité. La sérénité non plus ne peut pas être de la sûreté, autrement elle ne serait pas de la sérénité, mais de l'indifférence ou du dogmatisme. L'inquiétude et la sérénité vont ensemble, tout en étant aussi, comme vous dites d'une manière héraclitaine, les deux faces d'une monnaie.
Après le règne de la métaphysique, ce qui s'approche est une pensée autrement disponible, liée à un rapport à ce que nous expérimentons sans pouvoir le dire clairement. À cette pensée, il incombe d'assumer une certaine clandestinité qui est et sera son lot. Ce mot de clandestinité, vous êtes un penseur qui a toujours gardé un certain retrait, je dirais. Peut-être une clandestinité aussi, même si vous êtes très lu à l'étranger, peut-être encore plus qu'en France. Mais voilà, ce mot de clandestinité m'a sauté aux yeux, d'une part parce que je pensais au clandestin que vous avez été en Grèce pendant l'occupation allemande et italienne. Mais voilà, mais qu'est-ce que c'est qu'un philosophe clandestin et pourquoi c'est son lot ?
La clandestinité est le lot de certaines pensées. On ne peut pas parler de Kant et de sa grandiose pensée comme d'une pensée clandestine. Elle a été formulée, reconnue, discutée tout de suite. Héraclite a parlé il y a 2500 ans. Sa pensée est restée clandestine pendant 2500 ans. C'est Hegel le premier qui a parlé d'Héraclite. Héraclite était clandestin. Marx est resté clandestin pendant l'époque de la bourgeoisie triomphante. Nietzsche est un penseur qui reste encore clandestin malgré qu'il ait enseigné au lycée, aux universités, qu'il est partout. Je parle d'une certaine clandestinité chez moi qui n'est pas recherchée. Je ne cherche pas la clandestinité, mais c'est quelque chose qui vient vous faire face, c'est-à-dire cette attitude de ne pas appartenir à aucun système et à aucun non-système, sans faire de cela une attitude, provoque chez les autres cette attitude qui vous contraigne à la clandestinité, qu'on aime soi-même.
Kostas Axelos, les différentes entrées pour cette approche de ce qui advient s'intitulent « Ce qui s'approche », le non-dit, le vide, d'y réagir, ce qui ne nous quitte pas, le quotidien et le transquotidien, la fiction, ce qui advient, et le dernier c'est « En suspens ». C'est-à-dire que toutes ces entrées, toutes ces approches que vous arrivez de façon extraordinaire à nouer et à faire dialoguer se terminent par cette dernière en suspens.
Finalement, tout reste en suspens. Prenons l'amour des deux adolescents. Ils peuvent dire « amour » rime avec « toujours ». Ou quoi qu'il fasse, c'est en suspens. Toute entreprise politique, aussi ferme, grandiose qu'elle puisse être, est restée en suspens, a connu la transfiguration, le changement. Toute entreprise philosophique reste en suspens, ne peut pas arriver à dire le comment et le pourquoi du monde. Donc cet en suspens n'est pas une vague indécision ou un brouillon, mais que même les choses les plus fermes ou les plus fermement établies restent en suspens. si j'étais croyant, si je croyais en Dieu, je dirais que Dieu même reste en suspens.
La grave et incontournable question, comment vivre, vous la posez à travers tous vos livres, et dans ce qui advient, vous dites, les réponses et les solutions sont inexorablement bancales, et ce retir, ce retrait n'est pourtant pas rien.
On peut aujourd'hui rien prescrire. Pendant les périodes où j'ai enseigné, comme j'avais un rapport amical avec les étudiants et les étudiantes, il y avait, après le cours, des jeunes garçons ou filles, ou garçons ou filles ensemble, qui venaient et qui me demandaient, faut-il être de gauche, faut-il être d'extrême gauche, faut-il se marier, faut-il faire des enfants, faut-il continuer à faire de la philosophie? Il n'y avait pas de réponse à toutes ces questions. C'était des questions, il n'y avait pas de réponse, parce que le pas de réponse ne signifie pas que ça reste suspendu en l'air, c'est que chacun donne une réponse, mais qui reste elle-même questionnante, et ce mouvement même est un mouvement et un repos. Parce que s'il y avait des réponses clôturantes, il n'y aurait plus ce qu'on appelle communément vie. Et si tout était resté ouvert et à l'avenant, il n'y aurait pas de cohésion et d'articulation.
Kostas Axelos, on arrive à la fin de cette émission. Je voudrais citer une phrase que j'ai retrouvée dans votre livre « Horizon du monde » de 1974, et où déjà, il me semble que les questions telles que vous les abordez dans « Ce qui advient » étaient présentes. Vous écriviez donc en 1974 « Comment devenir des devenants au sein d'une humanité exténuée sans sacrifier à des mythologies de rechange ?» C'était en 1974, vous pourriez le dire encore aujourd'hui, avec plus de conviction encore.
Oui, je dirais même comment être devenant ou advenant dans une humanité qui a perdu tout repère et n'a pas de repère. Il ne s'agit pas de décréter « je ou nous fondons des repères » et donc au-delà du désespoir et au-delà de l'espoir, dans une attitude à la fois acceptatrice et questionnante. Car cette réponse qui n'existe pas, cette non-réponse aux questions de la vie, vraiment je ne sais pratiquement conseiller personne sur sa vie, sur la vie à mener, même s'il me le demande, n'est pas rien. Crée un lien tremblant entre la personne qui questionne et contre la personne qui fait jouer la non-réponse.